Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir avec Olivier. Et nous sommes déjà dans la dixième ce soir de cette série d'émissions historiques qui côtoient les différentes périodes de l'histoire, les grandes légendes historiques, comme on en a fait pas mal déjà, et bien sûr également tout ce qui peut vous passionner en essayant de garder bien sûr un esprit ouvert vers tout ce qui est mystérieux et qui peut bien sûr nous intéresser. Alors ce soir, j'ai proposé une émission donc qui s'intitulera Le roi Arthur, la légende arthurienne. On va se replonger dans la mythologie du haut Moyen Âge autour de ce roi mystique qu'est le roi Arthur. Tout le monde, je crois, garde à l'esprit cette histoire du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde, de la mystérieuse forêt de Brocéliande, hein, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, dans la région de Rennes, près de Paimpont. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, des fameux exploits des chevaliers, de la quête du Graal, bien sûr, hein, de Merlin l'Enchanteur, de la reine Guenièvre, de la fée Morgane, hein, de tous ces personnages qui, en quelque sorte, jouxtent cette fameuse, ce que l'on a retenu hein, comme étant la légende arthurienne, ou plus communément appelée la matière de Bretagne. Hein. C'est comme ça que l'on désigne généralement cette légende du roi Arthur. Alors évidemment, en premier lieu, on va se demander pourquoi, qu'est-ce qui m'amène à discuter de cela ce soir. Tout simplement parce que pour moi, jeune adolescent, si je puis dire, dans les années 80, c'est d'abord un film hein, qui s'appelle tout simplement Excalibur. Excalibur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la fameuse épée hein, du roi Arthur, une épée par laquelle il sera révélé comme roi, hein, puisque Arthur s'ignorait à lui-même comme étant le futur élu, hein, on en reparlera. Donc pour la couronne donc de cette partie britannique du haut Moyen Âge. Hein. Et puis ce film, c'est un film effectivement, on en parlera à la fin de cette émission, film de John Borman hein, du début des années 80, de 1981, qui s'appelle donc Excalibur et qui résume, c'est une approche évidemment hollywoodienne, hein, mais qui résume les exploits du roi Arthur. Hein. Depuis les débuts hein, jusqu'à sa mort sur fond de musique wagnérienne d'ailleurs, et c'est un film qui pour ma part m'avait déjà beaucoup interpellé alors que j'étais très jeune hein. Et puis, bien sûr, il y a cette mystique autour de la question du roi Arthur. C'est la quête, hein, la fameuse quête du chevalier en tant que tel, hein, et plus précisément la quête des chevaliers du Graal, hein, c'est-à-dire des chevaliers en fait de la Table Ronde qui vont partir pour la haute quête, hein, comme on disait à l'époque, et retrouver donc cette fameuse coupe sacrée, sachant que celle-ci ne peut se révéler que un chevalier qui soit digne, hein, si je puis dire, d'être reçu. Hein. Donc pour l'obtenir. Hein, voilà. Alors, cette émission, je propose de l'organiser, hein, si vous voulez, en 8 petites séquences. La première, bah, c'est de savoir un peu de quoi on parle, hein, bien sûr, ce soir. La deuxième nous amènera sur les hypothèses, hein, de cette question du roi Arthur, qui est-ce? Est-ce que c'est quelque chose d'exact, de non exact? La troisième nous amènera dans un cadrage historique, hein, pour essayer de voir à peu près à quelle époque tout cela se situe. On verra l'écho que cela a dans les lettres, hein, puisque bien sûr, comme vous le savez, la légende du roi Arthur, hein, bah, c'est Chrétien de Troyes, enfin bon, c'est tous ces auteurs-là, hein, qui se sont penchés, hein, qui ont ces fameux chroniqueurs, hein, du Moyen Âge, hein, qui ont mis si je puis dire, en musique, hein, toutes ces histoires, toutes ces contes et légendes, hein, qui étaient souvent d'ailleurs une tradition orale, hein, bien sûr. Ensuite, on verra, bah, évidemment la question de la mort symbolique du roi Arthur, l'aspect des symboles qui jonchent toute cette histoire, la symbolique de l'épée, bien sûr, hein, savoir Excalibur. Et on terminera évidemment en évoquant le film, hein, 8e séquence, dont je vous ai parlé. Alors, le roi Arthur, moi, pour moi, bien sûr, c'est d'abord un film, effectivement, la quête du Graal, ça c'est sûr. Et puis, à l'origine, bah, c'est un certain nombre de reportages que l'on a pu voir ces dernières années sur les ruines d'une abbaye qui se trouve dans le Somerset, dans le sud de la Grande-Bretagne, qui s'appelle Glastonbury. Et cette abbaye, qui a été fondée il y a très longtemps, au 8e siècle, eh bien, aurait eu le privilège de conserver les restes, non seulement du roi Arthur, mais de la reine Guenièvre aussi, hein, et de quelques chevaliers de la Table Ronde, dont le fameux chevalier Gauvain. Alors, tout cela peut sembler étrange, parce que bah, c'est au début du XIIe siècle, hein, plutôt vers la fin du XIIe siècle même, hein, en 1184, que des moines, suite à un incendie, hein, un énième incendie de ces abbayes, vous savez que ces abbayes donc, sont magnifiques, gothiques, etc., mais avec énormément de poutrelles, de structures en bois, hein, et régulièrement il y a des incendies, et en 1184, il y a un incendie majeur qui va permettre effectivement de dégager une stèle écrite en latin indiquant Sigil, roi Arthur, hein, hic jacet Inclutus Arthur, dit le texte. Et également, on parle de la tombe de Gauvain aussi qui aurait été retrouvée à cet endroit-là. Alors, tout ça évidemment se retrouve dans les chroniques de l'époque. Et puis, il y a des fouilles archéologiques qui seront menées au 19e, au 20e siècle, bien plus tard, hein, afin de retrouver ce qui est quand même le symbole, hein, probablement le plus ancien, hein, de ce que représente l'unité. L'unité britannique, en tout cas, originelle, hein, pour nous dire, bien avant, évidemment, bien avant le United Kingdom que l'on connaît, qui est évidemment une structure beaucoup plus récente. Hein. Et d'autant plus que, bah, en 1539, c'est-à-dire quand même au XVIe siècle, bien cette abbaye de Glastonbury, donc qui aurait, comment dire, conserver les restes, hein, du roi Arthur, eh bien, est dissoute, hein, démolie, fermée par le roi Henri VIII. Hein, vous savez que c'est la période de réforme, comment dire, de l'anglicanisme qui se met en place. Et donc, bien sûr, le lieu est donc fermé. Et après, il va disparaître, hein, évidemment, dans les méandres de l'histoire, hein, si on peut dire. Hein, et donc, ce sera effectivement, comme je vous l'ai dit, que vers le 19e, 20e siècle, qu'il y aura de nouveau des fouilles. D'autant plus que On pense que Glastonbury, avant d'être fondé hein, en 705, hein, quand même au 8e siècle, c'est quand même extrêmement ancien, fondé par le roi Inné, Inne, je cite, hein, eh bien, aurait été en fait une île qui comportant une source et qui aurait été à l'origine de la fameuse île d'Avalon, hein, Avalon, qui est le lieu, le dernier lieu où le roi Arthur hein, aurait été inhumé, hein, donc à la fin de son épopée, de sa saga. Alors, cette île d'Avalon aurait ensuite été donc Glastonbury, et voilà un peu toute l'histoire hein, de sa redécouverte et jusqu'à nous. Voilà ce qui est du domaine des artefacts, si vous voulez. Puis on va voir que dans la tradition, si on peut dire, historique, hein, historico-légendaire, hein, pourrions-nous dire, eh bien, toutes ces affaires-là remontent pour nous au 5e siècle de notre ère. Hein, 5e, 6e siècle, hein, c'est-à-dire pas du tout dans une période disons, de l'apogée du Moyen-Âge. Hein. On est vraiment aux alentours. Le 5e siècle, c'est quand même le siècle où commence le Moyen-Âge, c'est vrai, parce que l'Empire romain s'effondre. Hein, mais quand même, c'est très loin dans le temps hein, pour une saga que l'on imagine quand même d'un Moyen-Âge qui nous aurait amené autour de l'an 1000, quoi. Hein. Il y a à peu près 5 siècles d'écart. Hein. C'est assez intéressant de le montrer car toutes les sources de cette légende remontent hein, très très loin. Hein. Et elles remontent tout simplement au début du Moyen-Âge parce que le Moyen-Âge, hein, dont on parle ici ce soir, c'est cette période absolument gigantesque de l'histoire, hein, qui dure pratiquement un millénaire, hein, quand même, qui va être marquée d'une part par la fin de l'Empire romain. Hein. Fin de l'Empire romain, donc, avec Alaric, hein, qui pille Rome, le fameux sac de Rome en 476, hein, donc justement au 5e siècle précisément. Hein. Et puis qui se termine avec deux dates symboliques du 15e siècle, hein, donc hein, 1000 ans plus tard, hein, d'une part 1453, qui est la prise de Constantinople, comme chacun le sait, par les Turcs ottomans, hein, et puis 1492, qui est justement la fin de ce monde médiéval, de ces prétendus Dark Ages, hein, où précisément eh bien, on va découvrir ou redécouvrir avec Christophe Colomb l'Amérique. Hein. Voilà le cadre quand même. Qui est tout à fait considérable hein, et dans lequel, effectivement, se situe hein, notre propos, hein, notre propos de ce soir. Hein. Alors, de quoi évidemment est-ce que l'on parle? On parle d'abord de ce fameux roi Arthur, ce roi mythique. Hein, qui évidemment passe pour avoir été un de ceux ou celui pardon qui a fondé hein, qui a fondé l'unité hein, britannique. Alors bien sûr, à l'origine de tout cela, il y a quand même les définitions que nous donnent les sources, que nous donnent les dictionnaires. Hein, le roi Arthur, c'est un personnage de fiction, bien sûr, qui donne son nom, hein, à ce qu'on appelle la légende arthurienne, hein, c'est-à-dire la fameuse matière de Bretagne. Hein. Alors, Arthur, comme tous les biographes auxquels il a droit, il va naître, avoir son apogée et mourir. Hein, on nous indique que les parents d'Arthur hein, sont Uther Pendragon, hein, roi de Grande-Bretagne, et Igraine de Cornouailles. Hein. Arthur sera confié à sa naissance, car son père est tué rapidement, donc suite à une trahison, l'épée Excalibur se perdra, justement, qui avait justement protégé sa famille. Hein. Et c'est le mystérieux magicien Merlin. Hein, Merlin enchanteur qui va l'élever hein, pendant toute sa période de son adolescence, sans lui révéler bien sûr qu'il est l'élu hein, qui doit un jour tout simplement devenir le successeur de Uther Pendragon. Alors à la mort d'Uther, La succession se révèle donc alors un problème épineux et douloureux car il n'a pas de fils légitime. Puisqu'on sait, Uther Pendragon s'est uni de façon adultérine avec la reine Ygraine. Hein, et donc Arthur est un bâtard, entre guillemets, hein, donc il n'y a pas de fils légitime. Hein. On découvre alors, sur le parvis de la cathédrale, une épée enfoncée dans une enclume hein, et un roc. On peut y lire une inscription selon laquelle seul le roi légitime pourra arracher l'épée de la pierre. De nombreux chevaliers tentent l'épreuve, mais l'épée, justement, va rester en place. Ce n'est que plusieurs années après, hein, après qu'un adolescent parvienne à l'extraire, un jeune Arthur, hein, qu'à cet endroit se dessinent deux versions. Alors ça, c'est important. La première version, sont les barons refusent de reconnaître l'autorité de cet adolescent, et finalement Merlin intervient pour révéler qu'Arthur est le fils d'Uther et d'Ygraine. Donc l'héritier légitime revient de droit. Et c'est lui-même qui révèle, devant un parterre de chevaliers ébahis, dit-on, ses origines confirmées par Ygraine et Merlin, présents à cette scène. D'autres divergences ont lieu lorsque le nouveau roi est proclamé, parfois la bataille est rude, et Arthur va devoir effectivement gagner, si je puis dire, sa couronne. Il va triompher, hein, et puis il mourra peu de temps après, une quarantaine d'années de règne, dans une guerre fratricide, hein, sur laquelle nous aurons l'occasion, évidemment, de revenir. Hein. Alors, évidemment, la figure légendaire de Arthur hein, s'est développée essentiellement grâce à l'Historia Regum Britannae, hein, qui est l'histoire des rois de Bretagne, qui a été écrite par Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle. Et ça, c'est une des sources principales. Par ailleurs, toujours dans cette première partie, hein, le prénom d'Arthur est en rapport étymologique avec un nom celtique qui signifie Arthos. Alors surtout, ne jamais oublier dans cette histoire que toute cette légende, tous ces personnages vont évoluer, hein, si vous voulez, dans deux parties de l'Europe. D'une part, le sud hein, de la Grande-Bretagne actuelle, Somerset, effectivement. Puis l'autre partie, qui est ce qu'on appelle la Petite Bretagne, hein, c'est-à-dire la Bretagne française actuelle, hein, qui, elle, a pour dénomination la Bretagne bleue. Qui est aussi un lieu peuplé de magiciens, parce que tout cela se passe notamment dans la mystérieuse forêt de Brocéliande, hein, où se trouve un lac, notamment le lac de Diane, hein, lac de Diane qui, justement, sera amené à différents moments à conserver, hein, si vous voulez, la fameuse épée Excalibur, qui a un pouvoir magique, évidemment, de protéger, hein, le monarque. Hein. Alors cette Bretagne du VIe siècle, eh bien, géographiquement, hein, elle comporte évidemment toute la fameuse Bretagne qui était auparavant occupée par les Romains, hein, vous le savez, jusqu'au mur d'Hadrien, et puis donc avec effectivement une partie importante qui est la Bretagne que nous connaissons actuelle. Alors il y a plusieurs hypothèses, évidemment, dans cette histoire. Alors la première, que l'on appelle l'hypothèse galloise, hein, du nom du pays de Galles, hein, qui est Wales, hein, qui est cette région ouest hein, de la Grande-Bretagne, où Arthur serait né vers 470-475, donc on voit quand même des dates qui sont extrêmement, je trouve, pour le Moyen-Âge, très reculées, hein, qui sont des dates qui sont vraiment, qui flirtent hein, avec la fin de la période de l'Empire romain, hein. Et Arthur serait né vers 470-475, originaire du pays de Galles, hein, ou de l'ouest de l'Angleterre. Hein. Et donc, on a là un ancrage hein, celtique. Hein. Certains auteurs en feraient un grand propriétaire terrien, romanisé, ayant constitué, comme c'était alors couramment, sa propre troupe hein, de bucellaires, mercenaires à la solde d'une personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse galloise. Alors il y a également l'hypothèse romaine, qui est encore plus intéressante, qui nous amène cette fois-ci à des origines qui amèneraient Arthur hein, carrément à la fin du IIe siècle de notre ère, hein, notamment dans la région de York. Alors là, c'est encore évidemment plus lointain, hein, on s'y perd. Il y a une autre hypothèse qui est l'hypothèse syncrétique. Le patronyme Arthur pouvait être courant à l'époque celtique et aurait pu ainsi désigner plusieurs chefs, paraît-il. L'amalgame du récit des différentes vies aurait pu servir à constituer celle du personnage mythologique. Hein. Ce nom connaît d'ailleurs une vogue très importante dans l'aristocratie celtique. Mais on est encore une fois dans cette hypothèse syncrétique, hein, au VIe siècle, hein, de notre ère. Hein. L'hypothèse Whitehair également, hein, qui, elle, nous parle de la période des Saxons, hein, nous amène à la lisière de l'an 1000, hein, et surtout, et peut-être l'hypothèse qui comporte le plus de références, hein, à cet auteur Geoffroy de Monmouth, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Troisième aspect, bien sûr, c'est l'aspect chronologique, hein, qui a été plus ou moins reconstitué. Alors, pour faire simple, il y a d'abord à l'origine la conception d'Arthur, hein, par Uther Pendragon, qui veut posséder cette reine Igerne. Hein, et en 469, donc de notre ère, Uther Pendragon conçoit Arthur avec Igerne, épouse du chef des Bretons de Cornouailles. En 470, c'est la naissance d'Arthur. Hein, alors, il y a plusieurs dates, 456, 492, 470. Vers ensuite 500, c'est l'avènement d'Arthur, hein, en tant que, bien sûr, que roi, cette fois-ci, qui va justement, autour, hein, de la fameuse table ronde dont on va parler dans un instant, unifier, hein, tous les différents chevaliers et seigneurs, hein, qui l'entourent. Hein. C'est assez intéressant parce qu'on a là une sorte de roman historique fédérateur, hein, avant la lettre. Hein. Et puis, évidemment, rapidement, il y a des victoires, hein, il va fédérer son royaume, victoire des Bretons sur les Saxons, hein, notamment, en 516. Hein, et puis, c'est à peu près 35 ans de règne, puisque vers 535, c'est la date où Arthur affronte un beau-fils qu'il a eu et qui s'appelle Mordred, et il est blessé à mort, hein, dans cette fameuse lutte. Et donc cela nous amène à l'année 535. Alors, évidemment, quatrième point dans les lettres. Dans le monde des lettres, si vous voulez, hein, il y a plusieurs échos de tout cela. Hein. On a évidemment le fameux Historia Regnum Britannae que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, bien sûr. Et puis, différentes sources, les triades galloises, par exemple. Et puis aussi tout un tas de grands chroniqueurs, en fait, hein, du Moyen-Âge, qui vont, les uns après les autres, hein, reprendre, hein, le fameux roman de la quête du Graal, le roman d'Arthur, hein, qui sera d'ailleurs, qui aura pour corollaire aussi l'affaire de Tristan et Isolde, hein, qui est un roman annexe, en fait, en quelque sorte, hein, qui, lui, parle d'une affaire adultérine, mais qui ne concerne pas directement le roi Arthur. Hein. Alors, tout cela nous amène, bien sûr, à évoquer le dernier combat d'Arthur, hein, qui a lieu donc, dans cette bataille dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle la bataille de Camlann, contre les forces de Mordred. Hein. Et les historiens montrent que Mordred, en fait, était un chevalier de la Table Ronde, un fils incestueux d'Arthur, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et de sa sœur Morgan, ou bien de sa demi-sœur Morgoth. Le roi Arthur fut mortellement blessé lors de cette bataille et emmené à Avalon. Là, ses mains furent soignées ou son corps enterré dans une chapelle. D'autres textes disent qu'il n'est pas mort, mais qu'il s'est retiré dans Avalon, monde insulaire mystérieux. Le roi Arthur est en dormition et reviendra un jour. De nombreux lieux, hein, sont revendiqués comme étant l'Avalon, dont parle la légende de Glastonbury, dans le Somerset en Angleterre. L'île d'Avalon, un îlot sur la commune de Plumer-Baudou, hein, dans les côtes d'Armor. Alors ça peut être un lieu, hein, bien sûr, il y en a plusieurs. Mais finalement, quand on réfléchit et que l'on voit en fait en quelque sorte, hein, tout cela, il y a quand même pas mal de points qui rejoignent, hein, cette abbaye de Glastonbury. Alors, est-ce qu'il y a une part de réalité historique, hein, dans la légende du roi Arthur, hein, est-ce que cette réalité historique, comment dire, est teintée de légendes? Mais bien souvent, certaines légendes, surtout des légendes fondatrices comme celle-là, sur le plan national, hein, si on peut dire, eh bien, ces légendes fondatrices, souvent, ont quelques éléments, hein, de vérité. Hein. Donc, évidemment, on peut imaginer que Glastonbury aurait été, dès le 8e siècle, quand elle a été fondée, un lieu qui représentait symboliquement, hein, en quelque sorte, le roi Arthur, même si peut-être que l'on avait représenté un cénotaphe, hein, pour symboliser l'endroit où celui-ci aurait été, comment dire, inhumé. Hein. Et puis, finalement, eh bien, il ne l'a pas été, enfin, c'était comment dire, un symbole, hein, c'est le cas des cénotaphes. Alors cette question justement des chevaliers de la table ronde, donc Arthur, autour de 500 de notre ère, début du 6e siècle, devient donc ce prince, donc ce roi unificateur de la Bretagne, hein, des deux Bretagnes, de la Bretagne bleue et de la Bretagne tout court. Hein. Et pour ce faire, donc il va fonder une capitale qui s'appellera Camelot, hein, Camelot. Capitale qui sera entièrement, comment dire, architecturée par ce magicien puissant qui est Merlin, hein, et pour assurer ce gouvernement, hein, de la, donc de la, du royaume, eh bien Arthur va réunir environ 150 de ses meilleurs chevaliers, hein, qui seront donc regroupés autour de cette fameuse table ronde qui elle aussi a été forgée par Merlin. Hein, et une table ronde qui comportera, et c'est ce qu'on nous raconte dans la légende, un fameux siège périlleux. Un siège périlleux, hein, c'est-à-dire, donc, le siège périlleux, c'est justement le siège, hein, où, donc, peut-être, hein, se trouve dans le royaume lui-même, hein, la menace de la discorde. Alors évidemment, on a une liste impressionnante de chevaliers. Il y a Arthur, bien sûr. Je vais citer ici les principaux. Galahad, dont on va reparler tout à l'heure. Gauvain, dont on a parlé, dont on aurait retrouvé la tombe à Glastonbury. Lancelot du Lac, hein, Léodagan, Lohengrin, hein, bien sûr. Perceval, hein, Sagramore, Tristan, hein, Yvain. Voilà pour les principaux de ces valeureux chevaliers de la table ronde. Alors, également, le siège périlleux, ben justement, et ça va nous amener vers la sixième partie qui va aborder la question, hein, des symboles dans tout cela. Le fameux siège périlleux, hein, eh bien, c'est le siège de la discorde, et c'est celui où, justement, jamais. Pourtant, le meilleur de tous les chevaliers de la table ronde, qui s'appelle Lancelot du Lac, quasiment un frère, le frère, hein, d'Arthur, hein, le frère d'armes d'Arthur. Mais voilà, c'est que Lancelot du Lac va être l'amant, hein, de la reine Guenièvre. Hein. Et pour cette raison, il sera maudit, chassé éternellement, hein, chassé éternellement du royaume, hein, toujours menacé, toujours obligé de retrouver Guenièvre secrètement. Et c'est le jeune Galahad, hein, qui va ramener le Graal, hein, donc pour tout simplement faire lever la malédiction, hein, que ce phénomène d'adultère avait fait, tout simplement, dans lequel avait fait plonger dans le drame, la discorde, le royaume d'Arthur. Ça, c'est tout à fait évident et très symbolique, si on peut dire. Alors, voilà pour l'histoire, hein, en quelque sorte. Et alors, justement, C'est là justement un des volets hein, de la fameuse légende arthurienne. Bien, c'est cette quête. Arthur va lancer ses 150 chevaliers à travers toute la Bretagne, à travers toute la Bretagne bleue, pour retrouver la fameuse coupe du Christ. Hein, nous y revoilà, puisqu'on avait fait une émission entière sur le Saint Graal. Hein, vous vous souvenez de cette coupe mythique hein, dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait reçu le sang du Christ sur la croix, hein, le Christ agonisant. Et seule l'utilisation de cette coupe hein, est recueillie par un chevalier pur, hein, entre guillemets, eh bien, pourra redonner force et vigueur au roi hein, et ramener dans le droit chemin, hein, si on peut dire, donc le royaume hein, et le sortir du temps des ténèbres. D'ailleurs, c'est effectivement ce qui se passe, puisque Galahad va ramener la coupe auprès d'Arthur. Arthur va donc évidemment aller beaucoup mieux, le royaume aussi, hein, bien sûr. Et puis, il mènera son ultime combat contre les forces du mal recueillies autour de Mordred. Alors tout ça, vous voyez, on baigne vraiment, on baigne dans une symbolique tout à fait importante. Hein, cette symbolique étant donc celle de cette table ronde, hein, de cette capitale de Camelot, hein, la quête évidemment du Saint Graal, hein, et puis bien sûr toute cette symbolique arthurienne va servir bien sûr, notamment après l'an 1000 et la conquête du royaume en 1066, donc bien plus tard, par Guillaume le Conquérant. C'est vraiment, sur le plan symbolique, cette légende arthurienne, un élément fondateur hein, comment dire, de la conscience, quelque part, identitaire ancienne hein, des Britanniques. Et puis alors, une partie entière, septième partie bien sûr, est consacrée à Excalibur. Excalibur, qu'est-ce que c'est? Ben justement, c'est l'épée magique légendaire hein, du roi Arthur, le roi des Bretons, hein, dans les textes de légende arthurienne en matière de Bretagne. Alors certains considèrent qu'Excalibur est l'épée du rocher, preuve du liège d'Arthur, on l'a dit tout à l'heure. Cette fameuse épée qui ne pouvait être arrachée que par le futur roi. Tout ça ne forme qu'une seule et même arme. Excalibur a la réputation d'être incassable et de trancher toute matière. Son fourreau protège son porteur de toute blessure. Le roi Arthur, détenant les deux artefacts, était donc invincible sur les champs de bataille. C'est l'épée qui rend invincible. La première mention de l'épée d'Arthur sous cette forme est due à Chrétien de Troyes. Voilà donc le fameux chroniqueur dont je parlais tout à l'heure, qui fait partie, hein, comme de Mormouf, Geoffroy Mormouf, hein, de tous ces chroniqueurs qui vont rassembler ces textes hein, et forger justement cette légende arthurienne et ensuite l'histoire de Tristan et Isolde. Alors, l'étymologie de ce nom ancien est connue sous plusieurs variantes, Excalibor, Excalibor, Excalibert, Caliburne, et n'est pas déterminée avec certitude, d'autant que Excalibur n'est pas le seul nom connu de cette épée. Par exemple, dans le conte Le Chevalier, aux pages Pau, Pape Jo, Pape Go, elle s'appelle Chastier-Folle. Le nom d'Excalibur semble une altération savante. Alors l'épée d'Arthur s'appelle Caledwich en gallois, à rapprocher du breton, hein, Caledfouche. Ces mots sont composés de Caled, Ralette, hein, qui fut, selon la légende, le nom de l'épée de Nuada. Au XIIe siècle, c'est Geoffroy de Mormeauf qui est le premier auteur à nommer cette épée dans une autre langue que le gallois. Donc cette épée, évidemment, c'est vraiment le grand symbole hein, du chevalier hein, dans cette période médiévale. Le chevalier, dont n'oublions pas que l'épée a un double tranchant, encore un symbole, hein, tranchant à la fois pour l'ennemi, mais aussi pour le chevalier lui-même qui aurait failli à sa mission et qui alors hein, subira hein, le sort hein, donc de l'épée. Et puis, quand l'épée est perdue, eh bien, c'est la Dame du Lac, hein, donc ce lac qu'on appelle le lac de Diane, hein, qui se trouve toujours d'ailleurs dans la forêt de Paimpont, c'est-à-dire l'ancienne forêt de Brocéliande. Hein, et l'épée ne peut être récupérée hein, dans ces cas-là que par Merlin lui-même, hein, ou alors elle est réattribuée à un monarque bien plus tard, dont on estime que le monarque en question en est digne. Cette épée sera brisée aussi à un moment donné, pendant la légende arthurienne, brisée, jetée dans le lac, et reconstruite, reforgée à nouveau, pour redonner une chance. Vous voyez toute la symbolique que cela peut représenter. Alors, bien sûr, cet exposé sur Arthur, sur la légende arthurienne, qui, vous ne m'en voudrez pas, sera plus court que d'habitude, parce que je pense qu'on est ici dans un volume plus concis par rapport à la thématique qui est traitée ce soir, se conclura donc en huitième point par un film. Ce film dont je vous ai parlé, ce très joli film de John Borman, 1981, qui s'appelle donc Excalibur. Alors ce film Excalibur, réunit un certain nombre d'acteurs, dont Helen Mirren, déjà à l'époque. C'est intéressant de le mentionner. Et le film a été entièrement tourné en Irlande, a contribué à lancer les carrières d'acteurs tels que Liam Neeson, Patrick Stewart, Gabriel Byrne, quand même, qui jouent dans des rôles secondaires. Il a été en compétition officielle au Festival de Cannes, plutôt bien accueilli. Et il est considéré pour son aspect visuel, sa bande originale et sa symbolique comme un film culte des années 80. Ça, c'est absolument incontestable. Alors l'histoire est la suivante, mais elle recoupe ce que, bien sûr, nous avons évoqué ce soir. Le roi Uther Pendragon donc, reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée Excalibur, donnée par la Dame du Lac. L'épée doit lui permettre d'unifier le royaume de Bretagne, toujours pareil. Mais la passion d'Uther pour Ygraine ruine les espoirs de paix de Merlin, et Uther fait le siège du château du duc pour s'emparer d'Ygraine. C'est là que cela va donner la naissance, évidemment, de cet enfant adultérin que sera Arthur. Et Uther, qui sera tué peu de temps après, est puni, puisque le fils d'Arthur est enlevé par Merlin à Ygraine. Alors à son adolescence, Arthur, qui devient écuyer, assiste à un tournoi de chevalerie, et c'est là qu'il va avoir la révélation de tirer l'épée, et de devenir ainsi roi de Bretagne. Roi de Bretagne, en brandissant son épée Excalibur, le rendant invincible et lui permettant de fédérer, effectivement, très rapidement, la plupart des princes, des chevaliers qui sont autour de lui. Alors quelques années plus tard, on est donc au VIe siècle, puisque c'est ce que la chronologie semble indiquer, Arthur donc va épouser Guenièvre et créer la confrérie des chevaliers de la Table Ronde. Sa rencontre avec Lancelot du Lac, le meilleur des chevaliers, venant de l'autre côté de la mer, donc de la petite Bretagne bleue, de l'Armorique, signifie pourtant la fin de toute cette harmonie, puisque Lancelot et Guenièvre donc, vont tomber en effet amoureux l'un de l'autre. Et leur trahison envers Arthur entraînera le chaos, bien sûr. Arthur, de rage, plante Excalibur entre les corps entremêlés des amants endormis dans la forêt et abandonne là son épée. À son réveil, Lancelot, apercevant l'épée du roi, devient fou et s'enfuit. Quant à Guenièvre effondrée, elle se retient dans un couvent. Au même moment, Morgane, la fille d'Ygraine, s'empare des secrets de Merlin, profitant d'un instant de faiblesse de celui-ci, au moment où Arthur plante Excalibur dans la terre. Elle utilise alors ses tout nouveaux pouvoirs pour enfermer l'enchanteur dans une prison de cristal. Et ainsi, elle conçoit ce fils incestueux, Mordred, qui, malgré pourtant la recherche et la quête du Graal, va tuer, Arthur. Et ce sera évidemment la fin de la fameuse épopée. Bien sûr, c'est d'ailleurs là-dessus se termine le film, dans une scène absolument magnifique où Arthur, sentant sa mort arriver, demande à Perceval de jeter Excalibur dans un lac proche. Et Perceval hésite, revient vers Arthur qui lui dit qu'un jour un roi viendra à nouveau, l'espoir évidemment toujours d'un nouveau roi, et que l'épée réapparaîtra. Perceval finit alors par jeter l'épée et une main sortant de l'eau la saisit au vol. À son tour, Perceval aperçoit Arthur, au loin, étendu sur un navire, entouré par trois femmes vêtues de blanc, naviguant vers Avalon. Ces trois femmes sont Morgane, sa sœur, Ygraine, sa mère, et Viviane, la dame du lac. Je trouve que c'est un magnifique et superbe, une superbe résumé que ce film, qui, d'ailleurs, je vous invite à le revoir, le voir, le visionner de nouveau, hein, et afin de pouvoir, bien sûr, avoir le plaisir, hein, de mettre un peu des images à travers de cette merveilleuse, légende. Dont, encore une fois, et c'est un peu l'objectif et le fil rouge, hein, de ces différentes émissions, je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'il reste, hein, un voile néanmoins de mystère dans tout cela, qu'il n'est pas impossible qu'une partie des faits qui sont parvenus, évidemment, vous imaginez bien, au 8e siècle, par la tradition orale, hein, qui ont été ensuite par Geoffroy de Mormouf et Chrétien de Troyes mis en texte, hein, que la plupart de ces faits oraux aient servi de base, hein, pour concevoir, hein, évidemment, cette magnifique matière de Bretagne. Et qu'elle n'est pas, et on conclura dans cette émission un peu plus courte que d'habitude, qu'elle n'est pas le grand charme que encore aujourd'hui d'aller un peu dans les environs de Rennes, hein, en Bretagne, vers plus précisément Paimpont, hein, cette fameuse forêt de Paimpont, qui est l'ancienne forêt de Brocéliande. Hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, l'Europe, notamment l'Europe du Nord, était recouverte de forêts profondes, hein, et épaisses. Et dans cette forêt, il y a tout un parcours, hein, avec les lieux différents, justement, de la légende arthurienne. On y retrouve le tombeau de Merlin, on y retrouve la fontaine de Barenton, on y retrouve le lac de Diane. Tout cela procédant, évidemment, d'un romantisme particulièrement, évidemment, comment dire, plein de charme, quoi, et qui nous fait rêver, et rêver au fait que, bah, les légendes, hein, les fameuses légendes, qu'elles soient homériques, qu'elles soient médiévales, hein, montrent justement que ce Moyen-Âge, hein, et j'espère, presque ces trois quarts d'heure d'émission, vous l'avoir montré, que le Moyen-Âge n'est pas du tout, et j'insiste toujours là-dessus, les Dark Ages, cette époque obscure, horrible, que l'on nous dépeint sans arrêt, de violence, non, c'est un autre regard très différent et en rupture complète par rapport à celui de l'Antiquité, ce qui fait que nous, héritiers des civilisations de la Renaissance, nous le comprenons mal, bien souvent. Mais néanmoins, le merveilleux, le magique, l'enchantement, hein, Merlin l'enchanteur, hein, l'enchantement, c'est bien des choses qui appartiennent à la période médiévale, ne serait-ce que par les contes alchimiques, par exemple, hein, auxquels on peut penser. Tout cela procède évidemment, comment dire, de choses tout à fait belles, extraordinaires, que je vous invite à découvrir et surtout à lire et relire ces magnifiques romans de la légende d'Arthur. Et puis bien sûr, je ne saurais que trop vous recommander les films, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Excalibur, et bien sûr la musique que cela a inspiré, notamment de très beaux opéras, dont Le Parsifal de Richard Wagner, qui est merveilleux pour illustrer tout cela. Je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine thématique, donc fin novembre, dont je vous réserverai bien sûr la surprise. Au revoir, à bientôt.